Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose toutes les connaissances utiles à une vie bonne et heureuse. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître et surtout de vous faire du bien. Notre parti pris est de partager avec vous des savoirs ayant un impact positif sur l'homme et le vivant. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, nous rencontrons Laurence Cottet, l'autrice des livres « Non, j'ai arrêté » et « Petit guide pour réussir son mois sobre » chez Interédition. Laurence Cottet est patiente experte en addictologie, présidente France de Janvier Sobre et à l'origine de l'initiative citoyenne Janvier Sobre, mois national prévention alcool. Ex-cadre supérieur d'une multinationale, frappée par la maladie alcoolique qui lui fit, entre autres, perdre son poste, abstinente depuis 10 ans, elle dédie sa vie à la prévention de cette addiction destructrice. L'alcool est la deuxième cause de mortalité prématurée en France après le tabac. Plus de la moitié des Français connaissent une personne dans leur entourage personnel et professionnel dont ils pensent qu'elle a un problème avec l'alcool. L'alcool est devenu la première cause d'hospitalisation en France, notamment des femmes et des jeunes. Dans ce podcast, Laurence Cottet nous raconte comment l'alcool est rentré dans sa vie et comment a démarré son alcoolisme.
Bonjour Laurence.
Bonjour Amal.
Alors Laurence Cottet, vous étiez directrice des risques d'un grand groupe mondial du BTP.
Oui.
Vous êtes l'autrice des livres Non, j'ai arrêté et Petit guide pour réussir son mois sobre chez Interédition.
Oui.
Alors, à l'aune du janvier sobre que vous avez initié, pourriez-vous expliquer à ceux qui nous écoutent, aux auditeurs de Blooming You, comment est rentré l'alcool dans votre vie et pourquoi cette démarche?
Alors, l'alcool est rentré d'une manière très silencieuse dans ma vie et dans mon corps. Et très jeune, j'ai commencé à picoler beaucoup trop, vers 15-16 ans. Et c'est comme cela que s'est installé tout doucement cet alcoolisme qui finalement est une maladie, alors qu'à l'époque je ne savais pas que c'était une maladie, mais tout doucement cette maladie a pris l'emprise de mon cerveau et de mon corps et je dois être très réaliste, à 35 ans, je deviens alcoolique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une chose qui compte pour moi dans la journée, c'est l'alcool, ça devient une obsession. Et quelles que soient vos obligations, qu'elles soient familiales, professionnelles ou autres, eh bien vous les mettez de côté, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est trouver de l'alcool pour assouvir votre addiction. Voilà, donc à 35 ans, je suis malade et je vais traîner ça jusqu'à 48 ans, jusqu'au jour fatidique du pas de côté de trop, où là je m'effondre ivre-morte à la cérémonie des vœux dans le grand groupe que vous évoquiez en introduction. Et donc à 48 ans, je touche le fond et je perds mon travail.
Oui, cette fameuse date que vous évoquez beaucoup dans votre livre, le 23 janvier 2009, qui est une date pour vous charnière, où vous étiez effectivement au bord du précipice avec le choix de vivre ou de mourir.
Oui, en fait je m'effondre au sens propre. Et au sens figuré, je ne voulais plus de cette vie-là. Il est certain que quand on est alcoolique, on frôle très souvent la mort et ça n'est plus une vie pour nous. Et parfois, on a quand même un regain d'énergie. En fait, on n'a pas envie de mourir de cela, mais on fait tout aussi pour se trouver dans des situations extrêmement compliquées et parfois mortelles. Donc là, moi, je touche le fond, mais souvent, avec le recul, je dis finalement, c'est ma plus belle journée de ma vie, parce qu'en touchant le fond, certes, sur le moment, c'est pas agréable, je perds ma dignité de femme, je vais perdre les quelques amis que j'avais, je vais perdre mon travail, je perds tout sauf la vie. Et c'est vraiment à partir de ce jour-là que je vais enfin rencontrer un médecin qui, avec des mots très simples, va me dire « Mais madame, ça n'est pas de votre faute, vous êtes tout simplement malade, votre cas n'est pas désespéré, je peux vous aider ». et le fait d'entendre vous êtes tout simplement malade, ça va complètement me déculpabiliser. Je ne savais pas que c'était une maladie. Et j'en avais honte, et donc je me cachais, et donc je ne me suis pas soignée. Le fait d'entendre ces mots, ça va faire tomber cette honte, et je vais enfin durablement me soigner. Donc, le 23 janvier 2009 est pour moi une nouvelle vie qui commence.
Alors, à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte de cette maladie qui, à l'époque en tout cas, peut-être au moment de votre prise de conscience, n'en était pas encore une pour vous?
Je me suis rendu compte que c'était une maladie le jour où le médecin me l'a dit.
Mais à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez un problème avec l'alcool?
Eh ben, vers 35-36 ans. À 35 ans, je suis déjà bien bien dans l'alcool festif. Sauf que j'ai mon mari à mes côtés. Malheureusement, mon mari va décéder de façon dramatique et violente dans mes bras. Et à partir de là, je vais en une année complètement m'enivrer tous les soirs avec les 300 bouteilles qu'il m'avait laissées dans sa cave, parce que Pierre était vraiment, il était féru de nos logis. Et je vais prendre cet alcool comme un pansement que je vais mettre sur ce deuil que je gère très mal. Et en une année, je bascule vraiment dans la dépendance, mais tout simplement parce que j'avais démarré à une consommation excessive très très tôt, à 15 ans. Donc mon cerveau était déjà habitué. Et donc ce basculement va se faire en une année, et à 36 ans, je suis alcoolique. C'est-à-dire, je suis droguée à l'alcool, par contre, je le cache.
Mais comment, à partir de 15 ans, on peut déjà rentrer dans une consommation excessive d'alcool, surtout que vous venez d'une famille éduquée, bourgeoise? Comment on peut...
Vous savez, aujourd'hui, c'est très courant. Hein, quand vous posez la question aux jeunes, en espérant que certains nous écoutent, certains s'adonnent au jeu du binge drinking, qui est une défonce express, c'est-à-dire on boit le plus possible dans un temps le plus court et on essaie de s'effondrer le moins vite possible. Donc moi, vers 15 ans, j'ai quitté très rapidement le foyer familial parce qu'il n'était pas idéal. Et donc, je me retrouvais dans des groupes d'amis plutôt argentés, où l'alcool coulait à flot. Et j'étais la tchotte qui faisait rigoler tout le monde. Et je me souviens très très bien, vers 5-6 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir, tellement ça tournait dans ma tête, j'étais malade, et j'étais ivre. Donc voilà, moi ça, mais vous savez, mon histoire n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ce que font les jeunes actuellement, c'est exactement ça. Ils le font simplement sur un temps plus court, mais le résultat est le même. Ils sont ivres, certains vont connaître des comas éthyliques, on les retrouve aux urgences les vendredis et les samedis soirs. Donc aujourd'hui, on joue, les jeunes jouent avec l'alcool, jouent à se mettre dans un état minable. Hein. À l'époque, moi je le faisais par mimétisme, je faisais comme les grands. Mais c'était pas un jeu, c'était une manière de fêter le week-end. Alors qu'aujourd'hui, pour certains jeunes, c'est un jeu, le binge drinking.
Est-ce que c'est pas un jeu qui cache aussi autre chose? L'envie de combler un vide, une souffrance psychologique, ou c'est quelque chose qui vient comme ça, vraiment, de manière très légère et...
Non, non, une question. Pour revenir à mon histoire, avec le recul, et bien sûr parce que je l'ai travaillé, c'était, je comblais un vide qui était un vide affectif. Hein, j'ai fait une allusion, j'ai quitté le foyer familial très, très jeune, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tendresse, en tout cas, me concernant. Et donc, ce manque d'affection, de tendresse m'a poursuivi mais quasiment toute ma vie. Sauf que j'ai eu cette chance de tomber sur un homme qui m'a beaucoup aimée. Donc là, il était là et il m'a comblée sur le plan de l'amour, sur le plan de la tendresse. Malheureusement, Pierre part beaucoup trop vite, à 35 ans. Et là, je me retrouve de nouveau devant un vide abyssal. De manque de tendresse, et je le comble avec de l'alcool. De l'alcool et d'autres drogues aussi. On est rarement, on est souvent en polyaddiction. Hein, moi, il y avait l'alcool, il y avait la bouffe. Il ne faut pas oublier, c'est très courant chez les femmes, donc des boulimies. Hein. Il y avait les psychotropes. J'ai abusé de psychotropes, donc d'anxiolytiques, de somnifères, d'antidépresseurs, etc. Parce qu'en fait, j'étais quand même suivi par des psychiatres ou des psychanalystes qui ont parfois la prescription un peu facile et légère. Et moi, j'en abusais, en tout cas, puisqu'il n'y a pas de contrôle non plus de ce côté-là. Et après, il y avait quand même un petit peu de cocaïne hein, qui traînait. Quand on m'en proposait en soirée, je le prenais. Donc, ça fait beaucoup, tout ça. Hein.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est pour combler un manque. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler, d'ailleurs. Hein. Si on veut s'en sortir durablement d'une addiction, quelle qu'elle soit, il faut travailler sur ce qui se cache derrière les produits, ce que j'ai fait. Et en ce qui me concerne, c'était un vide d'amour.
Aujourd'hui, vous, à travers vos actions, vous militez pas forcément pour je veux dire, une abstinence totale de l'alcool.
Alors, je suis pour l'abstinence totale pour une personne comme moi, c'est-à-dire une
D'accord.
personne droguée à l'alcool, là, il n'y a pas de discussion. J'ai longtemps essayé de réduire ma consommation, ça marche pas, malheureusement. Notre cerveau est complètement imbibé d'alcool et il faut surtout pas réactiver les cellules. Et donc, la meilleure solution, c'est l'abstinence totale. Hein. Ce que je fais, moi, depuis 10 ans, et ça ne me pose aucun problème. Et je dirais même que mes meilleurs amis continuent à boire de l'alcool dans la modération. Et donc, c'est là où moi, je suis beaucoup plus ouverte. Et je propose donc le janvier sobre. Hein. L'objectif sobre veut dire boire et manger peu, et notamment boire peu de boissons alcoolisées. Et le janvier sobre permet de donner les informations sur ce qu'est l'alcool, hein, et de bien faire la différence entre l'alcool plaisir et l'alcool à risque. Hein. Et l'alcool plaisir, eh bien, c'est le fait de déguster un bon verre d'alcool. D'arrêter de le boire si on ne le déguste plus, hein, de le consommer toujours avec un aliment et surtout de respecter les repères de consommation à moindre risque qui sont posés aujourd'hui par Santé publique France et qui sont pour votre santé maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. C'est ça le janvier sobre. Donc, au cours de ce mois de janvier, on se pose la question de sa relation à l'alcool. Hein. On se fixe son propre défi, on se teste, on voit si, exemple, tous les soirs je prenais un verre de whisky. Eh bien, ce soir, je ne le prends pas, ou toute la semaine, je ne le prends pas, et je vois comment ça se passe. Est-ce que c'est compliqué pour moi de ne pas prendre ce verre? Si ça l'est, eh bien, je vais en parler tout naturellement à une personne qui peut être un alcoolique abstinent comme moi, ou à son médecin traitant, ou à un médecin addictologue, etc. L'important est de se poser la question de sa relation à l'alcool, de voir si elle est normale, hein, si elle respecte les normes que j'ai citées, de voir si elle n'est pas problématique, et si elle est problématique, tout naturellement, d'en parler à quelqu'un, et éventuellement de se faire soigner. C'est ça le janvier sobre.
Alors, vous dites également dans votre livre que, en fait, aujourd'hui, la première cause d'hospitalisation en France, donc, est liée à l'alcool et qu'elle est très dominante chez les femmes et les jeunes.
Aujourd'hui, la tendance, oui, là moi je gère beaucoup de groupes de parole et d'ateliers thérapeutiques, puisque je suis devenue patiente experte en addictologie. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je suis un petit peu effrayée, comme les médecins d'ailleurs. Depuis quelques années, on voit beaucoup de jeunes. Moi, j'accompagne des jeunes, notamment des jeunes femmes qui ont 23, 24 ans et qui sont déjà complètement droguées à l'alcool, comme j'ai pu l'être. Hein. Donc c'est dramatique parce qu'à 23, 24 ans, on a encore toute sa vie devant soi et l'alcool, il sera là. Donc qu'est-ce que vont faire ces jeunes en soirée, etc. C'est d'autant plus difficile pour eux de résister. C'est plus dur pour eux qu'une personne comme moi. Hein, je suis à l'aube de mes 60 ans, pour moi, c'est plus un problème l'alcool. Bon. Et après, donc les jeunes et de plus en plus de femmes. En fait, on est en train de casser un tabou, celui de l'alcoolisme féminin. Et c'est simple. Une femme qui boit, et ça je l'ai connue, hein, c'est automatiquement considérée comme une pochetronne, comme une femme facile, comme une débauchée, et elle le sait, donc elle va se cacher. Alors qu'un homme, c'est plutôt viril, on dira il y a une bonne descente. Là, on
C'est un
est
bon
sur la
vivant.
chasse. C'est un bon vivant. Moi, je le vois, là je vis dans la Drôme, on est en période de chasse, mais je peux vous dire que je les vois, Ils sont là, ils sont rigolards, ils sont tout rouges, ils sont bons, ils font la fête, voilà, après dans leur cabane, bien qu'aujourd'hui les cabanes à cause du confinement sont fermées, mais voilà, l'alcool est beaucoup plus accepté chez l'homme que chez la femme. Donc, conséquence, la femme se cache, et moi je me suis cachée. Je me suis cachée de mes 36 ans, le jour où je me suis rendu compte que j'avais un grave problème, jusqu'aux 48 ans, jusqu'à mes 48 ans, où là c'est l'ivresse manifeste publique, hein, de trop. Mais c'est là, c'est ça ce problème et tout le sens de mon témoignage à visage découvert. Hein, je crois que j'étais une des premières à alerter. J'ai commencé en 2014 à le faire et à dire voilà, maintenant il faut en parler, notamment pour toutes les femmes qui se cachent. Et elles sont entre 500 000, 1 million. Enfin, on n'a même pas de statistiques précises. Et je peux vous dire qu'elles existent parce qu'aujourd'hui, j'en suis beaucoup. La majorité des patientes que je suis, dans le cadre de la clinique d'addictologie de Grenoble et dans le cadre d'une autre association qui s'appelle Addict-Elle, eh bien, ce sont des femmes. Des femmes de tout âge.
Alors,
Donc,
l'association que vous citiez, c'était laquelle? Je ne l'ai pas bien entendu, pardon.
alors, c'est une association qui a 2 ans, qui a été fondée par le docteur psychiatre Fatma Bouvet de la Maisonneuve,
Qui s'appelle
qui
comment,
travaille
cette
avec
association?
Addict-Elle.
Addict-Elle, d'accord, très bien.
Elle. C'est une association ouverte aux femmes et dans laquelle eh bien, j'ai cette chance de participer en qualité de patient experte. Et là, on anime des groupes de parole chaque semaine. Donc, je les anime et donc, il n'y a que des femmes. Et je puis vous dire que ben, il y a beaucoup de femmes. Alors, toutes catégories sociales confondues. Tout niveau intellectuel, on en a tout secteur professionnel confondu. Aujourd'hui, l'alcoolisme féminin, ça peut toucher tout le monde. Mais comme le masculin, d'ailleurs.
Alors, on a compris que l'alcool est entré dans votre vie très jeune, puisque vous aviez 16 ans, et que visiblement c'était aussi dans une démarche de fuite de votre environnement familial. Ensuite, en revanche, vous dites que vous êtes devenu alcoolique sur votre lieu de travail.
Oui, moi c'est surtout, on dit souvent que être addict à un produit, c'est la rencontre de 3 paramètres. La personne, l'environnement et le produit. Alors la personne, j'en ai parlé, l'environnement. J'ai fait une très belle carrière professionnelle, mais toujours dans un monde très masculin, et notamment dans le monde du BTP. Et là, l'alcool était présent. Et c'est vraiment dans le monde du BTP que l'alcool étant là, de bonne qualité, gratuit, en open bar, que j'ai commencé à abuser d'alcool. Tout simplement parce que c'était un monde d'hommes, que j'avais du mal en tant que femme de faire ma place, et que bêtement, je pensais que si je refusais un verre de whisky ou une coupe de champagne, mon intégration aurait été beaucoup plus compliquée. Et après, bah, le produit, et ça je l'ai dit, le produit était présent. Le secteur du BTP est un secteur où l'alcool est souvent présent. Je dirais qu'il l'est aussi bien dans les bureaux que dans les cabanes de chantier. Hein. Et c'est pour ça que je fais aujourd'hui beaucoup de formations dans le monde du BTP, puisque je suis également la marraine d'un très beau concept qui s'appelle Déclic Addiction et qui a été mis en place par la fondation du BTP. Et qui permet donc de faire des formations maintenant dans toutes les entreprises du BTP.
Eh bien, Laurence, merci pour ce partage.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je pense que le sujet est tellement important que merci d'y avoir consacré du temps.
Si vous aviez un dernier mot à partager avec nos auditeurs,
Oh, je dirais.
plusieurs mots.
En quelques mots, si vous avez écouté cet entretien, cet échange, que vous pensez vous interroger et peut-être avoir un problème avec l'alcool, ne restez surtout pas seul. Allez en parler à quelqu'un. Voilà.
Merci Laurence Cottet.
C'est moi. À bientôt, Amal.
À bientôt.
Eh bien, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, faites-le nous savoir. Je vous rappelle les titres des livres de Laurence Cottet, Non, j'ai arrêté et Petit guide pour réussir son mois sobre chez Interédition. Je vous donne rendez-vous sur bloominyou.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.